Je veux sortir là, allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes, allez-y.
J'adore ça, moi je sors tout le temps.
Mais putain, sortez de chez vous,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête, allez-y, sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette. C'est la culture, c'est pas. Allez-y quoi.
Sortez.
Sortez.
Sortez, c'est cool.
Sortez les jambes.
Ok, vous voulez sortir?
Écoutez,
sortez.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sortez tous avec nous.
Sors!
Il est 16h sur Radio Campus Tour et vous écoutez l'émission Sortez. Je suis comme toujours avec Elio.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous vous proposons une émission un petit peu différente de d'habitude. Cette émission aura pour but de vous donner à vous, auditeurs et étudiants, des pistes d'aide et de solidarité que peuvent proposer les associations locales. Et pour commencer, rien de mieux que de vous parler à nouveau d'associations destinées aux étudiants. On commence donc cette émission en écoutant Marine de l'association Copain.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marine, bénévole au Bureau national et directrice du plaidoyer local de l'association Copain. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que déjà tu peux te présenter et nous présenter l'association Copain, qui s'écrit COP apostrophe 1, et ton rôle au sein de l'association?
Eh bien, je suis Marine, j'ai 24 ans. Je fais partie de Copain depuis maintenant 3 ans. Et je suis directrice du plaidoyer, donc bénévole, au sein du Bureau national de Copain. Il n'y a pas d'apostrophe à Copain, mais c'est pas grave, c'est un vieux logo. D'ailleurs, je peux revenir là-dessus. L'apostrophe, c'était pour Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et maintenant, on n'est plus trop affilié, vu que c'était que l'antenne de Paris. Okay. Mais maintenant, on est dans 28 antennes. La 28e, c'est celle de Tours. Et donc, Copain, c'est principalement de l'aide alimentaire. Enfin, à la base, c'est ça. Donc, ça a démarré par la distribution alimentaire. Et la spécificité, c'est que c'est par et pour les étudiants et que c'est gratuit. Il n'y a pas de conditions de revenus. Les étudiants ou les jeunes de moins de 26 ans peuvent y avoir accès juste en présentant leur carte étudiante ou leur carte d'identité.
Très bien. Alors, on y reviendra plus en détail dans la seconde partie, mais peux-tu nous parler brièvement des actions que vous mettez en place?
Donc, comme je l'ai dit, les distributions alimentaires. Donc, en général, ça dépend des antennes, mais c'est entre 150 et 300 paniers par distribution. Donc, on y retrouve des fruits et légumes de saison, frais, au maximum bio et locaux. Et ensuite, on a des conserves, des produits secs, des produits sucrés et des produits d'hygiène pour qu'il y ait un panier complet pour que les étudiants puissent tenir au moins une semaine avec ça. Et après, on a aussi le pan accompagnement. Donc, c'est de l'accès à la culture, de l'accès au sport, de l'accès aux droits. Nous, on n'est pas habilité à aider les étudiants, mais on peut les rediriger vers des aides, vers des associations qui existent déjà, parce qu'on a de la chance en France, on a tout un panel d'aides qui existent, mais il faut aussi les connaître. Et on organise également des festins avec un 1, toujours pour le jeu de mots. C'est des repas qu'on prépare, qu'on cuisine ensemble, donc entre étudiants et nos bénévoles, en petits groupes pour que ça soit convivial, pour que ça soit un peu plus intime et que pour tout le monde puisse apprendre à se connecter. À se connaître et ensuite on mange ensemble. Enfin, c'est un moment hyper festif, c'est hyper sympa et ça permet vraiment de créer du lien. Et après, il y a aussi la copine, notre cantine solidaire à Paris et le copain festival.
Est-ce que il y a une volonté de votre part de vous séparer de l'université? Parce qu'on le rappelle, c'est pour les étudiants. Vous parlez sur votre site de séparer justement l'université, donc il y a une volonté particulière?
Oui, parce que tous les étudiants n'étudient pas dans les universités, sur les campus. Il y a aussi des campus privés, des écoles privées. Et donc nous, il y a une volonté déjà de pas être dans les campus, parce qu'on n'est pas forcément rattaché aux CROUS ou aux universités. Et aussi, les campus sont excentrés. Donc nous, on veut que nos distributions, en tout cas nos activités, se fassent dans le centre-ville pour justement toucher plus facilement plus de monde et qu'il y ait vraiment une distinction entre le lieu d'étude et le lieu où on va chercher notre panier, où on va faire une activité manuelle, peu importe. En tout cas, qu'on ne puisse pas forcément croiser quelqu'un qui fait partie de notre promo. Et aussi, on fait ça en fonction de l'emploi du temps des étudiants, donc qui s'adaptent. On ne va pas faire une distribution à 14h en pleine semaine. Oui. On fait ça plutôt en soirée ou le week-end.
Sous quelles conditions je peux bénéficier de l'aide de copains ?
Bah, la seule condition, c'est d'avoir soit moins de 26 ans, soit d'être étudiant. On met pas plus de critères parce que déjà les étudiants ont beaucoup de mal à être captés par d'autres aides alimentaires. Donc nous, on a pris le parti pris de faire partie de mettre cette seule condition. Enfin, il y a peu de personnes qui vont chercher un repas alors qu'elles en ont pas vraiment besoin.
Comment agissez-vous pour rompre l'isolement des étudiants qui peut être très accentué donc par leur précarité ?
Bah, du fait qu'on soit tous des jeunes, déjà ça aide énormément. Ça paraît un petit peu bête, mais qu'on sourit, qu'on les tutoie en distribution, en fait qu'on parle de pair à pair, ça aide vraiment à barrer cette honte. Et aussi de faire les festins, des activités. On est en plus petit groupe, donc on peut parler avec eux, mais aussi que eux, les étudiants parlent entre eux. Moi, j'ai vu plein d'amitiés naître. Moi, je me suis fait plein d'amis à copains. Et c'est aussi ça, la richesse. Et on se rend compte aussi qu'il y en a plein qui vivent la même situation. Ils sont pas isolés, malheureusement. Ça devrait pas être le cas. Et donc après, ils se rendent compte que on n'est pas tout seul. Donc cette honte, elle devrait pas exister.
Comment est-ce que vous récupérez les produits alimentaires que vous redistribuez après ?
On est en lien, avant d'ouvrir une antenne, mais aussi du coup après, avec le réseau des banques alimentaires, donc qui récupère les invendus et autres produits des supermarchés. Et aussi, on est en lien avec, ça dépend des antennes, mais avec des producteurs, des réseaux de producteurs pour avoir des fruits et légumes frais. Et après, d'autres associations, ça dépend vachement des territoires. Mais en général, c'est principalement la banque alimentaire. Et après, on essaye de compléter, soit avec, comme je l'ai dit, des producteurs, des associations. Mais on organise aussi des collectes alimentaires dans les supermarchés. Alors ça, c'est pas directement après avoir ouvert une antenne, hein, ça demande plus de temps. Mais c'est quand même relativement simple à mettre en place. Et ça permet d'avoir des fois des produits plus qualitatifs et aussi de compléter, par exemple, avec des produits d'hygiène qu'on n'a pas forcément à chaque distribution, en fonction aussi de ce qu'on reçoit.
Alors, pour les étudiants qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce qu'on peut collecter, ce qu'on peut venir chercher aux collectes ? Qu'est-ce qu'on a quand on ressort d'une collecte de copains ?
Quand on arrive en distribution, on a d'abord, c'est dans toutes les antennes, le même parcours. Okay. On a déjà le pôle un peu accueil où, en fonction des antennes, on peut avoir un truc à boire, une petite friandise à manger pour... on vient de sortir de cours, on vient de finir sa journée, c'est un moment sympa. Ensuite, on va chercher les fruits et légumes frais. Donc, ça dépend. En général, il y a des oignons, des pommes de terre et on essaye... Je sais qu'en ce moment, c'est la saison des poireaux, il va y avoir des poireaux. Ouais, okay. On met pas vraiment de navets ou de courges. Déjà, les courges, c'est hyper lourd. Tout le monde sait pas cuisiner ou ne peut pas le cuisiner parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas une vraie cuisine ou en tout cas une cuisine fonctionnelle. Les navets, on se connaît tous, les étudiants, personne n'en mange. Déjà, les poireaux, certains ne savent pas comment cuisiner. Donc, il y a aussi un travail là-dessus. Ensuite, on passe aux conserves. Conserves à la fois soit de protéines, donc sardines, thon, pour les végés, pois chiches. Conserves de légumes, des produits secs, donc féculents. On essaye aussi des fois d'avoir un peu des aliments plus plaisir. Donc ça peut être des chips ou... c'est pas une alimentation hyper équilibrée, mais il faut pas non plus totalement se priver. Et ensuite, les produits sucrés, donc soit du petit déjeuner ou goûter ou peu importe, des petits gâteaux. Et les produits d'hygiène. Donc, ça, c'est autant du dentifrice que du shampoing que des protections menstruelles parce que ça coûte vraiment super cher.
Okay.
Donc vous vous êtes installé au 360. Est-ce que c'était important pour vous de trouver un lieu comme le 360, vivant, avec du public jeune, d'autres associations ?
Complètement. Déjà, c'est en plein centre-ville, donc c'est optimal. Et ensuite, on travaille déjà dans d'autres antennes avec un info jeune. Donc c'est parfait parce que ça rejoint plein d'aides. Nous, on est l'aide alimentaire, mais il y a plein d'aides psychologiques, de santé, peu importe. Du coup, c'est un lieu qui est de vie étudiante qui est hyper important et ça permet encore une fois d'être complémentaire à d'autres associations, à d'autres dispositifs. Donc, c'était hyper important.
Eh ben, merci beaucoup pour ta participation. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur des réseaux sociaux ?
Oui, principalement Instagram, enfin okay. Uniquement sur Instagram, donc Copain Tour, okay. Donc COP1 Tour, et après il y a le site internet qui est hyper complet.
Ok, merci beaucoup.
Radio Campus Tour 99.5 FM.
Ou sur internet radiocampustour.com.
Et pour poursuivre, Samuel et Marie vous présentent une autre association solidaire et étudiante. C'est presque un homonyme, c'est La Solidaire.
Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Valentine et Mélissane de La Solidaire Tourangelle, une association étudiante interfilière. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Salut.
Donc avant de nous présenter La Solidaire, est-ce que vous pouvez vous présenter? Quels sont vos domaines d'études et votre rôle dans l'association?
Alors moi, du coup, comme tu as dit, c'est Valentine. Je suis en troisième année de médecine à Tours. Et je fais partie du bureau de La Solidaire Tourangelle. Je gère les paniers avec Mélissane, du coup, en binôme. Et ensuite, je suis référente de l'équipe Solidarité Internationale. Mais je pense qu'on vous en parlera un peu plus tard. Et sinon, ensuite, c'est à peu près tous mes rôles et... Vas-y, Mélissane, je te laisse te présenter.
Du coup, moi, c'est Mélissane. Je suis aussi en troisième année de médecine. Et du coup, ça va faire à peu près un an qu'on fait partie du bureau de La Solidaire. Donc, moi, comme a dit Valentine, on est toutes les deux référentes paniers. Donc, c'est des distributions de paniers de fruits et légumes toutes les deux semaines à la faculté de médecine. Et je suis aussi représentante de l'asso parce qu'on est un bureau collégial et du coup, il n'y a pas de président en tant que tel. Donc, quand il faut représenter l'asso face à l'université ou face à la faculté, du coup, c'est moi qui en est responsable, même si je ne suis pas présidente. Du coup, voilà, je représente l'association quand il y a besoin et qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui le fasse.
Et donc, qu'est-ce que La Solidaire Tourangelle ?
Du coup, la Solidaire Tourangelle, c'est une association qui a surtout comme valeur solidarité et écologie. Nous, en fait, en médecine, on veut vraiment prôner l'écologie et montrer que même en étant étudiant, avec un petit budget, c'est possible d'avoir des actions écologiques et de solidarité parce que c'est des valeurs qui se perdent de plus en plus. Donc voilà, on propose des ateliers pour montrer qu'il y a encore des étudiants que ça touche et pouvoir passer des moments ensemble. Et c'est dans ces moments-là que, qu'on apprend à connaître des gens et c'est en faisant de la solidarité qu'on peut plus approfondir avec les étudiants de la faculté.
Et sur quel campus, du coup, est-ce que vous intervenez ?
Alors nous, on est basé au Tonnelay, du coup, l'association. Mais on est ouvert à tous les étudiants de l'université de Tours. Donc c'est vrai que la plupart de nos ateliers, du coup, ça se passera vers le site de la Riche. Mais tout le monde peut venir.
Et alors, donc, vous êtes une association, comme tu viens de le dire, interfilière. La Solidaire, c'est à peu près combien de membres et de quelles filières sont-ils issus ?
Alors, on a 200 adhérents à peu près. C'est vraiment 90% des étudiants en médecine, mais il y a aussi des étudiants de la faculté des Tanneurs, un peu des Deux Lions, moins de Grandmont parce que ça fait plus loin, mais voilà, les Tanneurs et les Deux Lions, comme c'est assez proche de la faculté de médecine, on arrive à avoir des adhérents. Après, ils viennent pas forcément aux ateliers, mais déjà, s'ils sont adhérents, c'est qu'ils ont entendu parler de nous, quoi.
Ouais, complètement. Donc la solidaire, ça se forme autour, on va dire, de 4 grands axes. Vous pouvez me reprendre si j'ai tort, mais c'est, je dirais, donc l'environnement, la solidarité locale, la solidarité internationale et ce que vous qualifiez de réflexion, la réflexion. Est-ce qu'on peut présenter ces différents axes et donc leurs objectifs et leurs actions ? On peut peut-être commencer par l'environnement, si vous le sentez.
Du coup, l'environnement, c'est donc la Clean Walk qu'on a mis dans ce pôle environnement. Donc la Clean Walk, du coup, qui est gérée par Léa. Il y a aussi les paniers de fruits et légumes, donc qui sont des paniers à 2 euros, on a notre partenaire à Saint-Avertin. Et ensuite, dans l'environnement, il y a le potager, du coup, qui est entretenu par Amandine. Donc ça, c'est à la faculté de Tonnelay. Donc c'est à la faculté et c'est un endroit ouvert aux étudiants. En fait, c'est un potager avec des bancs, etc. Donc c'est vraiment, on a essayé de créer un endroit vert pour pouvoir se mettre quand il fait beau comme aujourd'hui dans des endroits pas bétonnés, quoi.
Dernièrement, ils sont sur les constructions de nichoirs à oiseaux en plus.
Ouais, pour essayer de faire venir des petits habitants en plus.
Est-ce que vous pouvez nous parler des actions menées pour la solidarité locale ?
Oui, alors ça c'est Amélie qui en parlerait beaucoup mieux que nous, mais on va quand même en parler. Donc on a tout d'abord le frigo solidaire, ça concerne vachement les étudiants. Donc environ 3 fois par semaine, Amélie récupère, c'est souvent des conserves ou du pain de boulangerie. Et elle les dépose au frigo solidaire, du coup encore une fois au Tonnelay. Et après chaque étudiant est libre de venir se servir. Après on a les maraudes, donc ça c'est organisé avec la Croix-Rouge. Chaque année il y a environ 3 collectes et ensuite ils font à peu près 10 distributions dans l'année avec la Croix-Rouge et ils distribuent du coup les produits qui seront récoltés pendant les 3 collectes, voilà. Et puis, solidarité locale. On peut considérer un peu les paniers comme de la solidarité locale.
C'est un petit débat.
Oui, ça rentre...
En fait, tous les ateliers en soi sont solidarité, environnement. Enfin, on essaie que toutes les valeurs soient respectées à chaque fois.
Oui, exactement.
Mais les paniers, vu que c'est certes local, mais c'est surtout l'environnement. Voilà, on a des produits de saison.
Ça sensibilise aussi aux produits de saison.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment produits de saison. Culture, parce que les étudiants, ils n'ont pas forcément... les moyens d'acheter des produits de saison. Et là, en fait, ça, c'est hyper accessible. Mais c'est aussi, du coup, on considère ça comme solidarité parce qu'on fait en sorte que ce soit des paniers à 2 euros. Et donc, les étudiants peuvent en prendre et on considère ça quand même comme un acte solidaire.
Ouais. C'est des paniers qui sont... les étudiants les payent 2 euros, mais de base, en plus, c'est une valeur de 12 euros. Donc, il y a quand même pas mal de fruits et légumes dedans et... C'est vrai que c'est vraiment de la solidarité locale au final, puisque ça aide pas mal d'étudiants, je pense.
Et vous disiez, votre partenaire, il est à Saint-Avertin.
Ouais,
où est-ce que vous voulez procurer ? C'est quoi comme structure ?
C'est La Mesure. C'est un petit magasin, une petite épicerie qui est d'ailleurs hyper sympa, même pour aller faire un tour à Saint-Avertin. Donc on est en partenariat avec eux. Et on se fait livrer aussi grâce à un vélo électrique. Ça, c'est tout récent.
Oh oui, c'est trop bien.
C'est sympa.
C'est trop sympa. Et en fait, ça fait du coup travailler Saint-Avertin, La Mesure. Le monsieur, c'est Vélo 37.
Oui, c'est ça.
Et nous, du coup, on est 3 partenaires et on s'entend super bien. Et ça marche super bien. C'est vraiment une bonne cohésion d'équipe.
Ouais. Et alors, j'en parle maintenant parce qu'on est lancé. Ces paniers-là, donc on peut les obtenir ça toutes les semaines quand on est adhérent, au prix de 2 euros pour une valeur de 12 euros.
Si j'ai bien retenu
ce que vous venez de nous expliquer.
Exactement.
Quelles sont les conditions pour en profiter ?
Être très rapide.
Déjà.
Parce qu'on fait ça environ toutes les 2 semaines, le dimanche. Et on sort...
la communication.
Oui. La billetterie commence le dimanche... à 17h, et c'est-à-dire qu'à 17h10, il n'y a plus de panier. Donc, il faut vraiment...
Donc, ils rencontrent beaucoup de succès.
Oui, énormément. Oui. On peut dire le nombre. On a 60 paniers ouverts, enfin, disponibles. Toutes les deux semaines, 60 paniers sont disponibles, donc ce qui est quand même beaucoup. Mmh. Et en fait, vraiment, en 5-10 minutes, tout est pris. Les gens sont maintenant au courant que c'est des denrées rares. Et donc, la condition, c'est être adhérent. Donc, c'est 5 euros l'adhésion. Donc, franchement, c'est rentabilisé en 3 paniers, quoi.
Oh, même pas, hein.
vu le contenu du panier, c'est hyper rentabilisé. Mmh. Et donc, voilà, juste être adhérent, ça suffit pour commander. Et bah, du coup, être abonné à nos réseaux, soit Facebook ou soit Instagram, pour pouvoir avoir la com. Parce que sinon, c'est vraiment là-dessus qu'on met la billetterie. Donc, si la personne est adhérente mais n'a pas de réseau, bah, ça va être compliqué pour elle. Mmh. De recevoir quoi.
Et est-ce que vous qualifiez alors de réflexion parmi vos valeurs, ça englobe quoi? Est-ce que c'est le questionnement par rapport à nos pratiques? Est-ce qu'on peut améliorer?
Alors justement, le pôle réflexion, cette année on va renommer nos pôles et il risque un petit peu de disparaître, même s'il sera toujours retrouvé à travers les autres pôles. De base, c'était surtout un ciné-débat. En coopération avec l'association La Bobine qui est à Tonnelay aussi. Mais il n'y a pas eu vraiment d'atelier cette année et en réalité, c'est surtout l'association La Bobine qui
gère c'est qu'en fait, ça a été un atelier qui a été créé. On avait gardé ça dans notre pôle, mais là, on a fait une AG où on a revoté. Les statuts vont être changés au niveau juste de la répartition des pôles. Et ce pôle-là va être enlevé parce qu'en fait, c'était DIY, donc des ateliers pour créer. Et ciné-débat qui était regroupé dans ce pôle-là, mais en fait on ne s'y retrouvait plus. En fait, c'était vraiment.
Il n'y avait pas assez d'activités pour le pôle.
Pour que ce soit un pôle entier, on ne trouvait pas ça assez. Assez gros, assez conséquent. Donc, et puis le ciné-débat, en fait, c'est que La Bobine, c'est déjà une association qui fait des films et qui peut faire des ciné-débats. Donc on n'avait pas trop notre place et on a plutôt décidé de se concentrer sur autre chose. Et puis, petite exclue, on va reprendre l'hôpital des Nounours. Et donc, du coup, en fait, ça va remplacer et on aura un autre pôle. Donc du coup, on essaie de se renouveler aussi un peu et d'essayer d'être. D'offrir ce que les étudiants demandent aussi, quoi.
Et juste avant de faire une première pause musicale, on termine sur une présentation du syndicat étudiant solidaire étudiante. On écoute ça tout de suite.
Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de solidaire étudiante, déjà dire un peu ce que c'est et nous parler de votre fonction? J'ai entendu dire hors antenne qu'il n'y avait pas de fonction en fait dans solidaire étudiante. Qu'est-ce que solidaire étudiante?
Alors solidaire étudiante, du coup, c'est un syndicat. Donc c'est un syndicat comme on peut l'entendre un peu partout, c'est-à-dire comme la CGT, etc. Nous, on fait partie d'une fédération qui s'appelle Sud. Donc il existe plein de Sud. C'est ce qui est important en fait dans solidaire étudiante, c'est que on a à la fois dans la région Centre, il y a Sud Michelin, il y a Sud Rail, etc. Et donc nous, on fait partie de toute cette organisation là. Donc voilà, je pense que c'est important de le préciser pour les fonctions. Rachel,
On a un syndicat autogestionnaire, donc on fonctionne par mandat. C'est-à-dire qu'on se mandate pour, par exemple, pour venir ici. On a voté, en fait, et on fonctionne que comme ça. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie ou de poste.
Vous avez voté, c'est tombé sur vous ou qui vous êtes porté?
On s'est proposé.
D'ailleurs, tu l'as évoqué tout à l'heure, ça, en fait... Le Solidaire étudiante vient de la fusion de la Fédération syndicale étudiante et du Sud, c'est ça, en 2013. Oui. Donc c'est la création finalement de cette structure qui a maintenant 4 ans en fait.
C'est ça.
D'ailleurs, il y a très peu d'étudiants syndiqués en France. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous syndiquer? Est-ce que c'est aussi par rapport aux conditions étudiantes qui sont peut-être un peu précaires parfois?
Bah oui, en fait, il y a plusieurs raisons. Enfin, moi, personnellement, c'est déjà parce que je voulais rejoindre une structure qui est organisée pour militer, en fait. Parce que militer tout seul dans son coin, c'est quand même plus compliqué. Puis oui, aussi, quand on arrive à la fac, on voit des signes de précarité étudiante. On voit au niveau des logements, du travail en parallèle des études, tout ça. Forcément, ça nous fait réagir. Et on voit que le syndicat, justement, c'est une structure qui est adaptée pour lutter justement contre ces conditions de vie qui sont pas adaptées pour des étudiantes, même pour personne.
Mais pareil pour moi, du coup, c'était, enfin, j'ai commencé à me politiser un petit peu avant la fac, enfin, ma première année de fac, du coup, maintenant je suis en BTS, mais j'ai commencé à me politiser à ce moment-là, et puis je voulais vraiment rejoindre une structure ça organisée avec un mode d'organisation qui me plaît. Et Solidaire, au final, bah, je les ai rencontrés, juste ils m'ont donné un tract, c'était mes idées, j'ai fait une réunion, j'ai vu que c'était comme ce que je voulais que ça soit, et donc bah j'ai rejoint, quoi.
Alors justement, Solidaire étudiante, c'est un syndicat, je reprends les termes de définition sur le site internet notamment, syndicat de lutte et une fédération de syndicats étudiantes de lutte. Bon, je répète ce mot lutte, mais parce que pour moi il est important. Qu'est-ce qui signifie pour vous ce mot lutte au travers de ce syndicat étudiant ?
Le mot lutte, en fait, je trouve qu'il est assez important, c'est-à-dire que pour régler par exemple certains problèmes à l'université, on va avoir plusieurs paliers, par exemple, c'est-à-dire directement, par exemple, aller voir l'administration, aller voir, enfin, essayer de faire ça, de faire marcher entre guillemets les contacts qu'on peut avoir pour régler le problème. Mais si à un moment, par exemple, bah, comme dans tout syndicat, il faut faire une grève, il faut faire une mobilisation, des manifestations, j'utiliserai pas le terme imposé, mais il faut faire avancer les choses quoi qu'il arrive. Et dans ce cas-là, il n'y a que la lutte qui fonctionne, de mon opinion.
Et alors, du coup, quelle sorte de lutte ? Qu'est-ce que propose Solidaire étudiante pour lutter, justement ? Et lutter contre quoi, d'abord ?
On a plusieurs thématiques à défendre. Bah, donc, par exemple, déjà, c'est un syndicat aussi de lutte des classes. Mais c'est aussi un syndicat antisexiste, antiraciste, antifasciste. Enfin, la liste est longue, hein, mais on défend plusieurs thématiques différentes. C'est vrai que c'est très varié aussi.
Oui, donc c'est pas que l'étudiant en tant que tel et ses conditions, en tout cas d'études. C'est beaucoup plus large que ça.
Ouais.
Alors du coup, comment est-ce que vous luttez ? Est-ce que ça passe par des manifestations ? Est-ce que ça passe par des grèves, des pétitions ? Je sais pas, expliquez-moi un peu comment lutte Solidaire étudiante.
Bah moi, je viens d'arriver cette année, donc après, je peux parler que depuis septembre, quoi. Mais je sais qu'on a déjà, on a déjà pas mal bossé, on a participé aux manifs. Donc contre la loi travail, contre la réforme de l'enseignement supérieur, tout ça, enfin on prend part, quoi. Et après, donc oui, on essaie de diffuser, on tracte, on essaie de sensibiliser les autres étudiants et étudiantes. On essaie de discuter avec les profs aussi. Donc, ouais.
C'est ça, en fait. La lutte, du coup, ça renvoie en fait à tout un vocabulaire qui est peut-être ancien, qui est peut-être un peu folklorique, etc., mais qui reste néanmoins intéressant. C'est-à-dire, oui, effectivement, les grèves, les blocages, on a pu le voir pendant l'année dernière, pendant la première loi travail, quand Macron était ministre de l'économie. Les militants et les militantes de Solidaires étudiantes ont participé à ce mouvement-là, etc. Donc ça comprend tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire manifestation, manifestation sauvage, occupation de la fac, voilà, ça comprend toutes ces choses-là, etc. Et je pense que c'est assez important de le soulever, en tout cas pour ce syndicat-là.
Et avant de continuer sur la suite de cette émission, on va faire une première pause musicale sur le 99.5 FM Radio Campus Tour. On écoute tout de suite La Crise de Asfa Samsi.
Depuis que je suis née, c'est la crise. Je vois les gens qui s'abîment. J'ai même pas peur de l'avenir, moi. Je suis préparée au pire. Chômage fait rage dans la ville. Je veux pas faire mes valises. De façon, si ça m'arrive, moi, je suis préparée au pire. Et partout ils font la guerre. Revolver aux ceintures. Je suis là pour la perdre. Comme si c'était la fin du monde. Les deux genoux à terre. Si j'avais les mains plus longues, qu'est-ce que je ferais avec? Dis-moi, qu'est-ce que je ferais avec? Ne t'inquiète pas, j'ai la pige. Depuis que je suis née, c'est la crise. Depuis que je suis née, c'est la crise. L'économie, l'économique. Depuis que je suis née, c'est la crise. Depuis que je suis née, c'est la crise. Tous les jours, je vole la pige. Depuis que je suis née, c'est la crise. Depuis que je suis née, c'est la crise. Craqué en Tarès, les oiseaux ils chantent la nuit. Les oiseaux ils chantent la nuit. À cause du feu des lampadaires, j'ai choisi Made in Bangladesh. J'avais besoin de nouveaux habits. J'avais besoin de nouveaux habits. Mais j'avais toujours pas de salaire. De toute façon la musique ça paye pas. C'était pas plug à l'industrie. Tant pis si je me crame les doigts. Moi j'aime le parfum du risque. En puissant devant les injustices. Mais ferme les yeux pour pas se faire mal. J'aimerais mieux ne pas être là. Les jours où je suis bien lucide. C'est la crise. C'est vraiment la crise.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Tour et vous venez d'écouter La Crise d'Asfar Shamsi sur le 99.5 FM. Il est maintenant temps de continuer cette émission vouée à mettre en avant les lieux et les associations de solidarité étudiante et jeunes en général. On reprend donc cette émission avec des habitués de Sortez maintenant, Naïla, Clara et Léo qui vont vous présenter Info Jeune 37 ainsi que le tiers-lieu, le 360.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Naïla Bounouara, Clara Direnberger et enfin Léo Descheru de Info Jeune 37. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Salut.
Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre rôle dans Info Jeune 37 ?
Yes, je commence. Ok. Du coup, moi, c'est Naïla. Je suis, mon rôle officiel, c'est référente étudiante, donc salariée de Info Jeune 37. Je présente un petit peu peut-être Info Jeune ou...
Oui.
Donc, Info Jeune, généralement, 37 ou autre, ça fait partie d'un réseau Info Jeune régional. Il y en a à Orléans, il y en a à Chartres, etc. C'est une asso qui œuvre, comme son nom l'indique, pour l'information de la jeunesse, sur toutes les thématiques, aussi bien la culture, loisirs, que tout ce qui va être la mobilité internationale, l'engagement, tout ce qui va être job, insertion professionnelle, orientation... qu'est-ce que j'ai pas dit, tout ce qui va être vie pratique aussi, logement, aide financière, tout ça. Et donc mon rôle à moi en tant que référente étudiante, l'une des référentes étudiantes, on est trois à Tours, il y a également Mok et Faisal, c'est du coup vraiment de cibler les lieux et les publics étudiants. Et donc les lieux de vie étudiants, et donc notamment les campus, etc., pour pouvoir répondre à ces missions-là d'info jeunes plus généralement. Voilà.
Merci beaucoup.
Moi, du coup, c'est Léo. Je suis en service civique à Info Jeune 37 avec une autre personne, Abdel Nour. Et puis notre rôle, ça va être plus la valorisation de projets, de la bourse Envie d'agir, dont on va parler plus tard.
Et moi, c'est Clara. Je travaille comme facilitatrice de tiers-lieux au 360, parce qu'en fait, Info Jeune porte le projet du tiers-lieu, le 360. Donc, la volonté ici, c'était d'aller encore plus loin dans l'accompagnement et de monter un véritable écosystème autour de la jeunesse à Tours.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le réseau IJ ?
Du coup, comme je commençais à l'expliquer, coupez-moi hein, Léo et Clara. C'est un réseau c'est déjà un réseau, comme tu dis si bien, qui profite de plein de points et de plein de professionnels, etc., dans toute la région. Peut-être un peu plus.
Je crois que c'est national.
Je crois que c'est national, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones qui sont peut-être un peu moins, où le réseau EJ est moins présent. Mais bon, on peut noter Angers, etc., qui est au pied de la Loire, par exemple. Et donc oui, c'est un réseau assez étendu, et comme je l'ai expliqué, que ce soit à Tours ou autre part, qui œuvre vraiment pour l'information de la jeunesse, pour notamment les droits de cette jeunesse. Quand on dit jeunesse, moi, mon public, c'est étudiant, principalement, comme je l'ai dit, mais c'est aussi les lycéens, c'est aussi le post-bac non étudiant, non alternant, apprenti, enfin, dans une formation quelconque. C'est aussi les collégiens, enfin voilà. C'est la jeunesse dans son ensemble, sachant que on a une charte sans discrimination, donc c'est quand même important de le préciser. Et c'est un réseau qui aussi profite en fait de sa structure, tous les réseaux, je sais pas trop comment expliquer ça, pardon, parce que on profite aussi du fait que, par exemple, notre centre à Orléans, anciennement le CRIJE, mais Info Jeunes Centre Val de Loire maintenant, travaille vraiment avec nous. On peut être partenaire de plein de choses, de plein de partenaires relais, mais même entre nous, pouvoir profiter des ressources qu'on a, etc. Donc c'est très pratique d'être en réseau et pas seulement comme un point d'information, on va dire, isolé.
Rajoute juste une petite précision. On est Info Jeune, mais on fait un accueil de manière inconditionnelle. Donc en fait, on a aussi des usagers qui ne sont plus dans les tranches d'âge données par la mention jeune. Ouais. Mais comme l'accueil est inconditionnel, on refuse personne et on a des usagers de tout type qui viennent dans nos accueils les après-midi. On a aussi, dans le 360, en fait, on ne l'a pas dit, mais on a des associations qui sont résidentes. En fait, on a un grand bâtiment avec une partie du bâtiment dédiée pour Info Jeune, des salles en location pour des professionnels qui ont besoin de se réunir pour faire des journées de formation, des journées de réunion, etc. Et on a aussi des assos résidentes. On a Animafac, Caracol, les Bureaux du Cœur, J'accueille et S'entraider, Passe Culture et la Maison de l'Europe. Du coup, l'idée ici, c'était de centraliser des professionnels qui agissent avec les jeunes et de multiplier les ressources et de s'entraider dans un même bâtiment. Donc voilà, comme disait Naila, on a la Maison de l'Europe qui est avec nous dans nos bâtiments. Et du coup, ça nous permet aussi de réorienter les jeunes directement vers les assos dont ils ont besoin, en fait. On a aussi développé un partenariat avec Copain, dans le but de devenir une structure encore plus solidaire. Donc Copain, c'est une association qui fait de la distribution alimentaire pour les étudiants, pour et par les étudiants et étudiantes. Donc l'idée, c'est d'aller encore plus loin dans l'engagement, dans la solidarité. On a fait Investir Solidaire il y a 15 jours aussi. On essaye de mener les actions le plus variées possible, dans le but d'aider le maximum de jeunes.
Ok. Merci beaucoup. J'aurais juste une dernière question pour cette première partie. C'est quoi l'importance d'une structure comme Info Jeune à Tours, précisément ?
Là, justement, j'ai vu les chiffres il n'y a pas longtemps pour faire une espèce de bilan de l'année. Je crois qu'il y a à peu près 20 000 jeunes qui sont passés par chez nous l'année dernière. Donc, ce qui est énorme. Plus d'une centaine de jeunes accompagnés dans le dispositif de la Bourse Envie d'Agir. J'ai plus d'autres chiffres en tête, mais c'est énorme, en fait. On est vraiment une porte d'entrée avant de dispatcher vers des structures bien précises. Mais la porte d'entrée, aujourd'hui, t'es jeune et tu as un problème, quel qu'il soit, la porte d'entrée, elle peut être Info Jeune. Nous, après, on redirige vers les bons professionnels ou avec les bonnes ressources. Mais c'est la première porte à pousser si on ne sait pas quoi faire et si on ne sait pas où aller. Donc, ça brasse beaucoup, beaucoup de personnes.
Sachant que c'est des chiffres qui grandissent déjà depuis le réemménagement vers les Halles.
La construction du tiers-lieu, ouais.
Voilà, à la construction du tiers-lieu, avec le fait d'avoir plusieurs assos au même endroit, etc. Et le fait d'être localisé au niveau, dans un point un peu plus central, quoi, du centre-ville. rien qu'à l'accueil, c'est déjà des statistiques qui sont en train d'augmenter. On touche un peu plus les gens.
Alors j'aimerais qu'on puisse un petit peu parler de la bourse Envie d'agir. On n'en a pas du tout parlé, je crois que c'est toi Léo qui est là-dessus. Est-ce que tu peux nous présenter déjà ce que c'est que cette bourse?
Ouais, du coup c'est une bourse qui est financée par le département du coup. Et c'est disponible pour les gens de 11 à 30 ans. Okay. Et c'est sur n'importe quel projet, que ce soit avec une association qui est créée depuis moins de 3 ans ou des gens entre eux sans forcément avoir une association. Et c'est une aide financière pour mettre en place un projet qui aura pour but à la fin de avoir un impact sur le local, sur Tours du coup.
Okay.
Et ça peut être plein de projets. Là, on a eu une chaîne Twitch qui s'est lancée, un festival de drag, plein de projets différents. Et la bourse va jusqu'à 1300 euros maximum. Et après, c'est en fonction des besoins aussi des personnes.
Il y a eu beaucoup de courts-métrages, de documentaires, du management d'artistes aussi.
Très large.
Okay. Voilà.
Et comment on fait pour porter son projet jusqu'à InfoJeune 37? Comment on candidate pour cette bourse?
On vient un après-midi pendant l'accueil.
Okay.
Et on essaye de fixer un rendez-vous avec Chloé Guiton, qui se charge de l'accompagnement des jeunes, et avec Léo et Abdel Nour. Qui aident dans la bourse Envie d'agir.
Ouais, on a un accompagnement entier jusqu'à la réalisation du projet et ensuite la valorisation. Ça va être article sur le site du CRIJ du coup. Et maintenant, nous, on s'est mis avec Abdel Nour sur faire des vidéos courtes et impactantes, un peu comme des shorts, et pour montrer ce qui a été fait et donner envie à des futures personnes de venir. Candidater.
Et du coup, ces vidéos, elles sont visibles sur l'Instagram du 360. Donc, c'est le 360-37. Okay. Et sur le Instagram de InfoJeune 37.
Okay.
On va réouvrir la chaîne YouTube aussi.
Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler les horaires du 360?
Alors, les horaires du tiers-lieu, c'est les horaires en fait que l'accueil principalement. Okay. Petite parenthèse après, mais que principalement l'accueil de InfoJeune fait, c'est-à-dire donc tous les jours de la semaine, de 13h30 à 18h, et plus globalement le 360, comme on disait, il y a aussi la maison de l'accueil, la maison de l'Europe, à chaque fois, la maison de l'Europe, qui fait aussi ses propres accueils en plus. Donc là, c'est des jours qui changent à chaque fois, des créneaux horaires qui changent à chaque fois. Il y a des matinées, il y a des jours où il n'y a pas, où c'est seulement sur rendez-vous. Sauf si Clara a les données, sinon ça se retrouve sur le site, etc. Mais il y a aussi des accueils qui sont faits spécifiquement par la Maison de l'Europe.
Radio Campus 99.5. Radio Campus 99.5. J'ai des Radio Campus 99.5. Radio Campus Tours.
Et pour finir, pour tous les étudiants orléanais qui nous écoutent, Thomas et Hassan de Radio Campus Orléans sont partis interviewer plusieurs personnes au sein de l'AIDE, un lieu d'accueil ouvert pour tous les étudiants qui rencontrent des difficultés.
Cette semaine, partons à Orléans découvrir le guichet de l'AIDE. L'AIDE, c'est l'accompagnement individualisé des étudiants. C'est un lieu d'accueil ouvert à tous les étudiants qui rencontrent des difficultés. Peut intervenir face aux urgences et orienter chaque étudiant vers les bons interlocuteurs pour leurs problèmes d'isolement, de logement, d'alimentation, de matériel informatique, de job. Pour compléter et renforcer les actions déjà mises en œuvre par le CROUS, le service de santé universitaire et la maison de l'étudiant.
Je m'appelle Mevieji Olivia, je suis originaire du Bénin et je fais la licence 3 droit, économie et gestion au parcours finance et j'ai 27 ans. Comme le nom le dit, le guichet de l'aide ici, si tu as besoin de quelque chose, tu viens, on peut t'aider à trouver des solutions et tout. Donc au début, à mon arrivée, je suis venue pour mon inscription et j'avais un souci de logement. J'ai essayé d'en discuter avec Angélique et à mon arrivée, j'ai su que j'étais aussi enceinte de mon bébé et tout. Donc je l'ai informée de la situation aussitôt. Elle a pris en charge mon cas. Elle m'a aidé à avoir un logement provisoire itinérant. Ensuite, elle m'a pris contact avec l'assistante sociale qui m'a aussi suivie, qui m'a pris des rendez-vous à l'hôpital pour les consultations vu ma situation. Elle m'a beaucoup suivie quand même durant tout le parcours avec l'assistante sociale. En tout cas, j'étais bien encadrée avec elle et tout.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le guichet de l'aide t'a aidé à trouver un logement immédiatement?
Non, j'ai trouvé d'abord un logement provisoire. On m'a aidé à avoir un logement provisoire et je suis restée 2 mois à cause de ma situation et tout. Et après, ils ont pu m'obtenir un logement au Crous où je suis restée jusqu'à mon accouchement. Et vu qu'avec le bébé, c'était un 9 mètres carrés, je ne pouvais pas rester et tout. Donc, l'assistante sociale m'a trouvé un hébergement d'urgence aussi à la maison Sainte-Vette où je suis restée 3 mois. Et ensuite, elle m'a trouvé une sous-location dans laquelle je suis actuellement. Je ne me sentais pas seule, au fait, elles étaient là, même si c'est les 2 mois, 3 mois, c'était mieux que d'aller au 115 ou quelque chose du genre. Sinon, seule, j'aurais pas pu tenir, j'aurais pas pu. Ouais.
Angélique Abadi, responsable du guichet de l'aide de l'Université d'Orléans.
L'émission du guichet de l'aide, c'est d'orienter les étudiants vers le bon interlocuteur. Ce qu'on peut faire en première intention, on le fait. Sinon, on met en relation les étudiants avec les institutions qui sont les bonnes pour eux. Et surtout, on fait beaucoup, beaucoup d'orientations. Il y en a beaucoup de partenariats. Donc, on réunit ici le mardi de midi à 15h beaucoup de partenaires. Il y a la CAF, la CPM, il y a ESOP. Là, en ce moment, on a le CCS jusqu'au mois de décembre. On a Itinéraire, qui est une association aussi pour les étudiants. L'année dernière, on avait la clinique juridique. Peut-être cette année, ça se fera de nouveau, puisque c'est des conventions aussi. Donc, on signe beaucoup de conventions. Et ça permet de réunir en un seul lieu tout un tas de dispositifs qui aident les étudiants sur les problématiques qu'ils rencontrent le long de leurs études. Donc le logement, la précarité étudiante, qui est aussi un gros sujet. Et la santé, on renvoie vers le SSU, mais en tout cas, on donne les bonnes adresses pour les étudiants.
Le guichet de l'aide existe depuis combien de temps?
Depuis 4 ans, un petit peu plus de 4 ans. Il a été ouvert post-Covid. Pendant les files d'attente, ça a interpellé un petit peu, je pense, beaucoup, même les enseignants qui étaient là et qui ont fait des distributions. Mais ils se sont aperçus qu'il y avait bien d'autres problématiques que l'histoire de manger à ce moment-là. Les étudiants, ils sont isolés. Ils sont isolés pendant leurs études. Souvent, ils sont isolés parce qu'ils viennent soit d'une autre ville, soit d'un autre pays. Et ça a mis en lumière. Et du coup, le guichet de l'aide, ça a un peu cette vision-là de se dire, eh ben, on est là pour toutes ces problématiques et on donne les bons tips, on oriente les étudiants et on est là quand ils ont besoin aussi de trouver quelqu'un, on fait de l'accompagnement.
Un des plus gros sujets de préoccupation pour les étudiants et étudiantes que vous recevez, c'est le logement. Donc, comment travaillez-vous avec le Crous?
De fin août à mi-septembre, c'est ici que les étudiants internationaux viennent s'inscrire. Moi, mon rôle, c'est de réunir pas mal de partenaires pour faciliter leur inscription en France et de rencontrer les dispositifs qui sont mis en place pour eux. Et notamment, le Crous est un de nos partenaires et vient ici. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les 4 phases d'inscription au Crous, elles sont déjà passées. Et du coup, il ne reste plus qu'une liste d'attente. C'est-à-dire que la dernière phase qui a lieu en mi-juillet, c'est pour les étudiants non boursiers et les étudiants internationaux. Vu le nombre de logements Crous qu'il y a actuellement, puisqu'il y a eu des fermetures pour les rénovations, etc., et le nombre d'étudiants, on est quand même très très loin du compte. L'année dernière, on a eu quelques problématiques d'étudiants sans logement. Cette année, c'est plus quelques problématiques, c'est très inquiétant. L'année dernière, il y avait un projet qui avait été mis en place, porté par le CRIJ, mais qui du coup est un projet commun avec la métropole, l'université. Il y a plusieurs institutions qui sont mises ensemble, dont le CRIJ qui est avec le CIJ, le Centre international de la jeunesse, et l'association Itinéraire. Et donc on dispose du coup de logements d'urgence, mais vraiment de l'urgence urgence. Je précise qu'il y a des urgences qu'on peut catégoriser.
Urgence relative et urgence absolue, si on prend le vocabulaire hospitalier.
Exactement. On a des urgences plus et d'autres qui sont un peu moins urgentes. Et sur ce dispositif, ça permettait à des étudiants, et notamment Olivia et Nadine ont pu en bénéficier, c'est que quand il n'y a rien, quand on arrive, qu'on n'a plus trop les moyens. Puis quand on arrive de l'étranger, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de compte bancaire, qu'on n'a pas de domiciliation. Donc il faut un temps pour avoir une d'abord la domiciliation, ensuite ouvrir un compte bancaire, ce qui permet de pouvoir prendre son argent et de payer. Sans ça, ben, on ne peut pas avoir le logement, on ne peut pas s'inscrire. Enfin, il y a un tas de choses. C'est un peu le chien qui se mord la queue. Honnêtement. Et du coup, ce dispositif-là nous permet de mettre à l'abri des étudiants sur un bail de 15 jours, le temps que la liste du CROUS descende, qu'ils puissent avoir un logement CROUS et de trouver des solutions. Une situation comme celle d'Olivia qui, du coup, ne pouvait pas rester au CROUS parce qu'elle était enceinte. Comment ça se fait qu'on n'ait pas de solution pour les étudiantes qui attendent un bébé ? En fait, ça arrive d'être une future maman et en plus c'est tout à son honneur de continuer de persévérer pour faire ses études et on dispose pas de logement pour une future maman, elle peut pas y rester, c'est assez incroyable. Des situations oui, par exemple de personnes porteuses de handicap qui ont bien fait leur demande pour avoir un logement parce qu'elles ont quand même une priorité et qui du coup les choses sont pas faites et je trouve ça compliqué. Alors, on a quand même des interlocuteurs au CROUS avec qui on peut obtenir une référente handicap qui fait très bien son boulot et dès qu'on l'interpelle, elle réagit très très vite. Donc j'en profite pour la remercier. Mais sinon, le reste du temps, c'est très très compliqué. Et puis aussi, il faut dire qu'il y a les étudiants tombent un peu de haut quand ils visitent un logement avec il faut faire intervenir parce qu'il y a parfois des punaises de lit quand on vient de loin. On s'attend pas à tout ça. Il faut vraiment faut qu'on se préoccupe de comment on accueille les étudiants, où est-ce qu'on les loge, comment on les loge et comment on informe aussi les étudiants sur Campus France qu'il faut trouver un logement. Parce que le problème, c'est qu'ils arrivent ici en pensant « je vais à l'université, donc je vais avoir un logement ». Et c'est pas ça qui se passe. C'est pas le rêve américain dans les films, c'est pas du tout ça. Là, c'est il faut trouver un logement en amont, et c'est pas le cas. Voilà. Et après, il faudrait trouver des solutions avec les bailleurs sociaux alors, qui mettent déjà à disposition des logements étudiants, mais en tout cas faciliter au niveau des papiers administratifs, être dans la compréhension que, en tout cas, pour certains étudiants, ils ne peuvent pas avoir de garant physique, mais même des étudiants nationaux. Tous les étudiants ne peuvent pas avoir des parents qui peuvent être là pour les aider. Il faut revenir à la réalité. Aujourd'hui, les étudiants, c'est vraiment une population qui est précaire. Puis il ne faut pas oublier aussi au niveau de la santé psy. Et moi, j'interpelle vraiment à ce niveau-là. On a des étudiants qui sont en grande souffrance psychologique. Et de plus en plus. Alors, on a un SSU avec des psychologues qui sont là. Et heureusement, on fonctionne beaucoup avec Amara, donc la maison des ados. Et c'est très inquiétant. Et on est bien plus loin que ce qui se passait au niveau du Covid. On constate une forte hausse de la précarité, une forte hausse aussi des problèmes psy des étudiants. Et puis surtout, il faut commencer par le logement, en fait. Déjà, on les loge et une fois qu'ils ont... Parce que pour eux, c'est très inquiétant pour eux de pas avoir de logement, d'être emballé, d'être chez des connaissances. Là, cette année, on a eu beaucoup d'étudiants qui ont dormi à la gare avant d'atterrir ici. C'est des jeunes, on rappelle quand même, c'est des jeunes de 18, 19, 20 ans. Voilà, dormir à la gare à Orléans, moi j'irai pas y passer la nuit, par exemple, ou d'aller dormir chez une connaissance qu'ils ont rencontrée en venant ici. Il y a du danger quand même dans tout ça. Il y a du danger.
Je m'appelle Nadine, j'ai 20 ans et je suis étudiante en sciences du langage. C'est ma première année ici à Orléans et en France aussi.
Vous venez d'où ?
D'Algérie. Alors dès mon arrivée en France, je connais personne ici à Orléans. Du coup, j'étais à Paris chez mes cousines. Et quand je suis venue ici, ils m'ont orientée vers le guichet d'aide. Et ils m'ont accueillie très bien, avec sourire, respect et une bonne écoute. Et c'est ça qui m'a assurée. Et j'ai confiance au guichet d'aide. Ils m'ont vraiment aidée, ils m'ont orientée vers beaucoup de choses. J'avais un problème de logement. Ils m'ont aidé, ils m'ont trouvé un logement provisoire. Et là, je suis en liste d'attente du CROUS. Et toujours, quand j'ai un problème, toujours je viens ici, au guichet d'aide. Honnêtement, grâce au guichet d'aide, maintenant je suis à l'aise. parce que dès mon arrivée, j'étais stressée. Dans ma tête, j'ai dit vraiment, cette année, je vais souffrir. Mais quand j'ai venu ici au Guichy Tête, ils m'ont aidée, ils m'ont sorti de la situation que j'étais. Et grâce à eux, je suis bien, je suis à l'aise maintenant. Oui.
Oui, Campus France, je dirais que c'est la procédure qu'on suit pour venir étudier en France. Et pour commencer, on paye les frais de dossier, on choisit les universités, on dépose les dossiers. Campus France de notre pays, il y a l'institution Campus France dans chaque pays, je dirais. Et là-bas, ils étudient les dossiers. Si on obtient l'admission de la part des universités ici, on fait la procédure de demande de visa. Si on obtient le visa, on vient.
C'était la dernière présentation de cette émission. Bien évidemment, nous n'avons pas pu parler de toutes les associations et de toutes les structures agissant pour la solidarité et la solidarité étudiante. Il en existe bien d'autres. Nous aurons sûrement l'occasion de refaire une émission comme celle-ci avec de nouvelles associations, qui sait. Il est donc pour nous temps de vous dire au revoir. Cette émission est à retrouver demain midi sur nos ondes, mais également en podcast sur radiocampustour.com. On se laisse sur une toute dernière touche de musique avec « Si tu m'aimes demain » d'Iliona et nous vous souhaitons une agréable fin de journée.
Si tu m'aimes demain, on sera des stars à 70-80 qui se cachent leurs gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris la semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, à la télévision ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être des cons. C'est voir la vie à deux. Dommage, j'irais pas mieux. De voir se dire adieu. On tournait pas. Si tu m'aimes demain, je ferai un tas de photos dans les chambres d'hôtel. Toi, tu me peindras sur le dos. Si tu m'aimes demain, dans les soirées chics, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'un été, loin des journaux qui crieront scandale. Si tu m'aimes demain, bisous, incognito, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux. Dommage, j'y avais pas mieux. De voir se dire adieu. On tournait pas heureux. Se retrouver comme de vieux. Faut que si
Radio Campus Tour, 99.5 FM et sur www.radiocampustour.com.
Radio Campus Tour.